La chair est haute. Et ou c'est moi qui ai rapt ici depuis la dernière fois. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est. Nous les vieux, on se tasse parfois. Oh. Ça va, je suis pas encore à ce stade. Mais c'est une joie d'être parmi vous. Et c'est toujours un défi et un immense privilège pour nous d'être ici avec ma femme Ingrid et avec nos deux petites filles Elena et Alice de 4 et 6 ans. Et comme la plupart d'entre vous, vous le savez, nous sommes missionnaires à plein temps avec un organisme qui travaille parmi la jeunesse, qui s'appelle Parole de Vie France. Et donc nous sommes très heureux d'être à plein temps au service de Dieu. C'est un appel spécial que nous avons reçu. Et nous travaillons à plein temps et nous voyons des jeunes se tourner vers Christ. Certains jeunes ici sont déjà venus au camp. Maintenant, ils servent dans leur église. Donc ça, c'est notre but. C'est qu'on ne vole pas les jeunes des églises. On amène les jeunes dans nos activités pour les encourager à être mieux connectés à leur église locale. Vous comprenez? Ça, c'est le but de Parole de Vie. Donc c'est un ministère qui se trouve à côté de l'église, si je peux dire ça. À côté de l'Église, pour soutenir l'effort de l'Église, mais directement concentré sur la jeunesse. Et nous aimons les jeunes, bien sûr, nous aimons aussi les moins jeunes. Je vous aime tous ce matin. Mais nous aimons particulièrement les jeunes, puisqu'ils sont un défi. Parfois, ils nous font un peu peur, parfois, on ne sait pas comment les prendre. Mais ils ont un potentiel de service pour le Seigneur qu'il ne faut pas ignorer. Et il ne faut pas oublier non plus que les jeunes, c'est l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église de demain. Amen. Donc il faut les préparer, il faut les former. Et ça c'est notre cœur, c'est notre passion. On aime préparer les jeunes, les former, prêcher l'évangile, faire des disciples. Et voilà tout ce qu'on fait à travers Parole de Vie France. Et donc c'est un privilège. Merci à tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui nous soutiennent. C'est vraiment une grâce de travailler pour le Seigneur. Alors je vais attendre que ça se calme un petit peu. C'est vrai, il y a des petits bruits de chaise, ça va aller. Voilà. On va prier. Seigneur, oui, merci de diriger ta parole ce matin. Merci de nous faire du bien. Merci de nous enseigner. Merci vraiment que ta parole parle. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ta parole, ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Et nous voulons être fidèles et obéissants à ta parole. Donc aide-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, quand j'ai su que c'était la journée de reconnaissance, n'est-ce pas, on était déjà venu l'année dernière en cette même période, je crois qu'on est venu avant aussi, mais on était venu, c'était toujours vers fin novembre, n'est-ce pas, et j'avais déjà prêché un message pour ceux qui étaient là. Je ne vais pas vous demander est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai prêché, parce que ça fait un an déjà, mais j'avais prêché sur le thème de la reconnaissance, le fait d'être reconnaissant, de dire merci, voilà. Et donc j'ai dit, bah, j'ai vu Jean-Claude il y a pas longtemps, j'ai dit écoute, je vais pas reprêcher le même message, n'est-ce pas, je vais demander à Dieu qui me dirige. C'est pas parce que c'est le même jour de reconnaissance qu'on doit prêcher la même chose, sûrement pas. Dieu a d'autres choses à nous dire, n'est-ce pas. Mais quand même, ce verset très central avec lequel je vais commencer tout simplement, juste pour l'évoquer, c'est le 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 qui dit: remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Et j'ai entendu des témoignages ce matin. Il y a des circonstances qui ne sont pas faciles. Et il y a des circonstances dans lesquelles on n'est pas à nous trouver parfois. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit: remerciez Dieu en toutes circonstances. Donc ça veut dire que peu importe la circonstance dans laquelle je me trouve, la volonté de Dieu, c'est que je le remercie quand même. Parce que je comprends que la circonstance dans laquelle je me trouve, elle contribue à glorifier le Seigneur. Même si je ne comprends pas tout de suite la circonstance dans laquelle je me trouve, je dois quand même remercier le Seigneur parce que c'est la volonté de Dieu. En Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est difficile de faire ça parfois, n'est-ce pas? De remercier le Seigneur quand même. Et de se dire, je vais juste remercier le Seigneur quand tout va bien. Parce que voilà, c'est facile. Mais alors quand il y a des tuiles qui m'arrivent dans ma vie, le Seigneur, hein, tu te mets de côté et puis je fais ma tête de cochon.
et je veux pas le remercier. Mais en fait, cette attitude-là, ça nous aide à avoir un cœur toujours ouvert et avoir une certaine humilité devant Dieu, en reconnaissant que notre vie, c'est pas nous qui la dirigeons, en reconnaissant que c'est Dieu lui-même qui dirige notre vie. Et s'il décide de nous faire passer par des moments difficiles, c'est sa décision. Et il veut se glorifier dans ces moments difficiles. Et il veut quand même que j'apprenne à le remercier dans ces moments difficiles. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est facile à dire pour moi d'ici, bien sûr. Et nous avons eu aussi des moments difficiles, parfois, mais le Seigneur a été là. Et c'est vrai que c'est difficile de remercier Dieu pour un moment difficile, mais c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et en faisant cela, nous évitons de tomber dans l'orgueil, nous évitons de tomber dans le piège de l'autosatisfaction, de dire « c'est moi qui dirige ma vie ». Et ça, j'avais pas prévu ça. C'est pas normal. Donc je vais pas remercier Dieu. Il y a des chrétiens qui agissent comme ça. Et malheureusement, ils empêchent le Seigneur de travailler dans leur vie. Parce que nous savons, en Romains 8, qu'est-ce que ça dit ? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut pas dire que toutes choses sont bonnes en soi, mais elles nous amènent vers quelque chose de bon. Les choses, quand on dit que ça concourt au bien, ça veut dire que ça nous amène à quelque chose de positif pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui reconnaissent que Dieu est leur Seigneur et qui sont capables de le remercier tous les jours de leur vie. Se réveiller avec le sourire, comme disait un frère ce matin. Donc ce matin, je ne vais pas prêcher sur ce verset parce que pour moi personnellement, il n'y a pas grand chose à plus à dire sinon que de le mettre en pratique, tout simplement. Et du coup, comment est-ce qu'on peut ce matin remercier encore Dieu d'une façon évidente et d'une façon pratique ? Alors, je vais peut-être bousculer certaines croyances ce matin ou certaines façons de penser, mais je suis content que ce n'est pas moi qui va vous bousculer, c'est Dieu. Parce que je ne vais rien inventer ce matin. Tout va être pris de la parole de Dieu. Et donc, si ensuite vous avez un problème avec ce que j'ai dit, eh ben vous allez aller devant Dieu. D'accord ? Et moi, ça me libère. Parce que ce n'est pas moi. Je n'invente pas les choses que je vais vous dire ce matin, d'accord ? Donc, notre responsabilité face à la parole de Dieu, comme dit Jacques, c'est comme un miroir. Quand Dieu nous dit « il faut que tu changes ça dans ta vie », qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en va en oubliant notre reflet sans rien changer ? Comme quelqu'un qui se lève le matin et qui arrive au culte en robe de chambre. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Vous vous êtes préparé, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand vous vous êtes regardé dans le miroir. Vous êtes dit « je vais à l'église, il faut que je change certaines choses ». Pour les filles, vous avez mis du maquillage. Pour les gars, on a mis un peu de gel, un peu de… voilà, n'est-ce pas ? Ou pour ceux qui n'ont pas de cheveux, ils mettent pas de gel. Mais en tout cas, ils se lavent le visage. Ah oui, ça passe, hein. Mais on change les choses, vous êtes d'accord ? On ne reste pas la même personne quand on doit se préparer pour la journée. On change ce qu'il y a besoin de changer. La parole de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu nous marque des choses à changer, les amis, il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Parce que si nous sommes des auditeurs oublieux, nous perdons du temps précieux dans cette vie et sur cette planète. Du temps précieux que Dieu veut mettre à son service. Donc il nous faut changer les choses petit à petit. Quand Dieu nous montre ce qui ne va pas, on ne s'en va pas et on ne sort pas dans la rue en pyjama. On change ce qu'il a besoin de changer, n'est-ce pas ? Donc aussi simplement que ça, Jacques il prend cet exemple très simple, très bête, j'ai envie de dire. On voit les choses, on change. Dieu ce matin, il veut nous montrer des choses. Et vous savez, quand j'ai préparé ce message, il y a quelque temps, j'ai vraiment appris des choses. Vraiment, j'ai appris des choses et c'est vraiment positif. Vous savez, nous, on n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Le chrétien qui pense qu'il a fini d'apprendre un jour, c'est un problème. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'orgueil là-dedans. On n'a jamais fini d'apprendre. Et moi-même, j'ai appris des choses que j'aimerais vous partager ce matin. Et comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'invente, quelque chose que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Alors, je me suis dit, quel exemple on peut prendre pour remercier Dieu d'une façon qui l'honore. Alors je me suis tourné vers le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël, c'est vrai qu'il a fait des choses qui ne sont pas toujours glorieuses, mais ils avaient quand même un respect de Dieu, une crainte, et ils avaient cette habitude de remercier Dieu, de vraiment le remercier d'une façon très concrète. Et donc je me suis penché dans un premier temps vers le peuple d'Israël par rapport à la dîme dans l'Ancien Testament. Voilà, la dîme dans l'Ancien Testament. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages que je vais juste mentionner pour ceux qui veulent prendre des notes, mais je ne vais pas forcément lire parce que ça prendrait trop de temps. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu qui était la tribu de Lévi, n'est-ce pas ? Si vous découvrez ces choses maintenant, bah vous pourrez les relire plus tard. Il y avait la tribu de Lévi qui était mise à part, qui était consacrée au service de l'Éternel pour l'usage du temple. D'accord ? C'était une tribu que Dieu avait mise à part. Et donc, cette tribu, elle prenait un dixième des récoltes du peuple d'Israël et elle vivait avec cela parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. Donc, c'est-à-dire que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de contester cette décision qui venait de Dieu. Dieu avait dit, cette tribu, elle est mise à part pour moi, elle travaille à plein temps pour le temple, donc nous allons prélever un dixième de toutes les récoltes du peuple d'Israël en entier et la tribu de Lévi, vous allez vivre avec ça. Voilà ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Si jamais le peuple d'Israël ne faisait pas cela, il n'avait pas compris que ce n'était pas une option. Bon, Malachie 3:8, Dieu dit, vous m'avez volé. Et là, le peuple y pose la question, mais en quoi t'avons-nous volé ? Et là, Dieu dit, vous avez retenu des offrandes, vous avez retenu des dîmes qui sont censées aller pour mon peuple, pour la tribu de Lévi. Et donc, c'est quelque chose qui me parle énormément aujourd'hui, vous savez, parce que... Ça va aller, le petit enfant ? C'est pas grave, ça arrive. Alors, cet exemple-là, moi, il m'interpelle beaucoup, les amis, parce que dans ce passage, en fait... Je comprends qu'il y a des personnes que Dieu a mis à part pour son service. Et en l'occurrence ici, c'était la tribu de Lévi que Dieu avait mis à part pour son service. Et Dieu avait ordonné au reste du peuple de Dieu de subvenir aux besoins de ceux qui étaient appelés à plein temps. Aha. Je vais vous dire des choses ce matin, les amis, que vous n'aimez pas entendre, mais que ce n'est pas moi qui les dis. La responsabilité du reste du peuple d'Israël, c'était de subvenir ceux qui étaient appelés à plein temps. Donc quand je transfère cela aujourd'hui à l'église actuelle, c'est très simple. Il y a des personnes qui sont appelées à plein temps. Vous avez votre pasteur, vous avez des missionnaires, des missions ici en France, des personnes qui ont été appelées à plein temps pour le Seigneur. C'est quoi la responsabilité de ceux qui n'ont pas été appelés à plein temps ? C'est quoi ? C'est de subvenir aux besoins de ceux qui le sont. C'est extraordinaire. Et de cette façon, Dieu, quand il a instauré ça avec la tribu de Lévi, il voulait que le peuple soit uni. Et il voulait que ce partage de richesses soit une bénédiction. Et c'est Dieu qui avait décidé, cette tribu est mise à plein temps, vous n'êtes pas à plein temps, vous travaillez, ce que vous gagnez, vous vous en servez pour subvenir mes serviteurs qui, eux, oui, sont à plein temps. Et de cette façon, le partage des richesses est une bénédiction pour tous. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, on va plus loin. Je regardais de quelle façon le peuple d'Israël était reconnaissant. Et c'était des manières très pratiques. Alors, non seulement il y avait ça envers la tribu de Lévi qui n'était pas une option. Ensuite, il y avait ce qu'on appelait la dîme des réjouissances. Est-ce que vous saviez ça ? Dans Deutéronome 12, 10, 11, 17 et 18, la dîme des réjouissances. C'était des actes de réjouissance et de remerciement quand le peuple d'Israël est arrivé dans la terre promise. Donc là déjà, il y a non seulement la dîme, j'allais dire obligatoire, non négociable envers la tribu de Lévi, mais en plus la dîme des réjouissances. Quand ça fait 10% plus 10%, on arrive déjà à 20% ici. C'est intéressant, hein ? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous savez, quand on parle de l'Adima, c'est que 10%. Vous allez voir aujourd'hui, ce matin, que c'est bien plus que 10%. Bien plus que 10%, les amis, et qu'on ne peut pas rester dans notre conformisme et dans notre petit confort européen de cocher la case des 10% et de penser que tout est réglé devant Dieu. Attention, la dîme des réjouissances, 20% que Dieu demandait à son peuple. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. On continue dans l'Ancien Testament. Il y avait aussi la dîme des pauvres. La dîme des pauvres, là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29. Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29. On appelait ça la dîme des pauvres. C'était une sorte d'assistance sociale de l'époque. Une sorte d'assistance sociale de l'époque. Donc aujourd'hui, on a notre système français. Il y a ce qu'on appelle l'assistance sociale, n'est-ce pas ? Et c'est une aide qui vient du gouvernement pour nous aider à mieux vivre, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont moins de ressources. Ils sont assistés socialement. Et bien, même à cette époque, Dieu avait prévu cela envers les pauvres. Donc ça veut dire que Dieu ne voulait pas que les pauvres soient délaissés, soient mis au rebut, soient oubliés de la société. Il avait demandé à son peuple, quand il prenait leur récolte, de garder une part pour les pauvres. Et c'était la façon dont il pouvait les assister, ceux qui étaient dans un besoin extrême. Et ça, c'était 10% que Dieu demandait tous les 3 ans. 10% de toutes les récoltes tous les 3 ans. Donc là, on arrive à 23% annuel. En plus, Dieu demandait aux gens, on voit ça aussi dans Deutéronome 14, 28, 29, de ne pas moissonner les coins de leurs champs pour les pauvres. Dieu demandait à son peuple de ne pas moissonner les coins des champs. Donc ça veut dire qu'il moissonnait la grande partie, mais Dieu disait, tu ne vas pas aller ratisser jusqu'à la dernière paille. Tu fais 80%, j'ai envie de dire, et le reste, tu laisses pour les pauvres. Les pauvres derrière qui vont passer, qui vont pouvoir récupérer cette récolte, une partie en tout cas, et qui vont pouvoir vivre d'une façon décente. Voilà ce que Dieu dit, hein. Je vous dis, j'invente rien ce matin, hein. Tout ça vous pouvez vérifier dans la parole de Dieu. Et donc on arrive là à 25% par an, qui était un minimum selon Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, les amis. Ensuite, nous voyons qu'il y avait des offrandes volontaires extraordinaires. Le peuple d'Israël aimait donner à Dieu. Il y avait des offrandes volontaires et ça s'appelait les prémices. Les premiers produits de la terre, le premier bétail était offert par amour pour Dieu. Et on lit ça dans Nombre chapitre 18, versets 11 à 13. Nombre chapitre 18, versets 11 à 13. C'était vraiment un geste magnifique de confiance et de foi en Dieu. Parce que ça signifiait qu'à Dieu, on ne donne pas les restes. J'ai bien aimé ce que Tony a dit ce matin aussi, quand il dit « j'aime pas entendre les petites pièces dans les poches ». Ça s'appelle des restes, mes amis, les pièces. Que vous le vouliez ou non. Ça s'appelle des restes. C'est ce qui nous reste, n'est-ce pas ? Dans le fond de poche, dans le fond de sac à main, dans le fond de portefeuille. On fouille un petit peu, on sort les pièces et on met dedans. Voilà. Ça, c'est les restes. Dieu n'est pas intéressé par les restes. Il veut les premiers produits de la terre. À l'époque, le premier bétail. Vous vous souvenez des offrandes entre Abel et Caïn ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Abel a offert le meilleur agneau de son troupeau. Dieu a vu son cœur et il a dit « ça, c'est une offrande agréable ». Caïn, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert des produits de la terre qui n'étaient pas les meilleurs. Et comment nous pouvons affirmer cela ? Parce que Dieu a refusé le sacrifice d'Caïn. Donc Caïn, au lieu de prendre les meilleurs produits de la terre, ceux qui étaient sans défaut, il a pris des produits qui étaient défectueux. Il a pris des produits qui ne voulaient plus et il s'est dit « bah autant les sacrifier à Dieu ». Et Dieu a vu ça. Et on ne trompe pas Dieu, les amis. Dieu a vu ça. Et il a dit « ce n'est pas acceptable, Caïn, tu as mal agi. Tu n'as pas offert le meilleur de tes revenus. Tu as pris quelque chose, tu as pris le fond de tes poches, tu as pris ce qui ne te servait pas, ce dont tu voulais te débarrasser, et tu me l'as donné, et tu pensais me tromper de cette façon. » voyez, c'est très grave, les amis. Et Abel, par contre, quel exemple. Il a pris un petit agneau sans défaut, sans tache, pur, le meilleur de son troupeau. Il n'a pas laissé de côté pour dire « je vais offrir un agneau qui est aveugle ». Il a dit « non, je vais offrir le meilleur au Seigneur ». Le meilleur au Seigneur. Donc voilà des façons du peuple d'Israël de remercier Dieu. De remercier Dieu. Et dans Exode chapitre 25, versets 1 et 2, on va lire ça parce que ça c'est quand même impressionnant. Regardez. Exode chapitre 25, versets 1 et 2. C'est juste après la Genèse. Exode chapitre 25. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ici ? L'Éternel parla à Moïse en ces termes : invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur. On a dit quelque chose d'essentiel ce matin. Remercier Dieu, c'est faire des offrandes de bon cœur. Si l'offrande n'est pas faite avec un cœur bon, l'offrande ne vaut pas grand-chose devant Dieu. Ce que Dieu veut, plus que la quantité, c'est notre cœur. On va le voir plus tard aussi. Notre cœur. Un cœur généreux. Il n'y a pas d'autre précision. Et dans Exode chapitre 36, donc 10 ou 11 versets plus loin, vous avez déjà sans doute lu ces versets qui sont extraordinaires. Exode chapitre 36, verset 2. Ça dit quoi ? Moïse fit venir Bethaël et Oliab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait douté d'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse tous les dons que les Israélites avaient apportés pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors tous les artisans habiles exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire, interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse : le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant : que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare l'offrande pour le sanctuaire. Le peuple cessa donc d'en apporter. Car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Extraordinaire. On vit rarement ce genre de situation aujourd'hui dans l'Église, n'est-ce pas ? Il y a trop d'offrandes. C'est merveilleux. C'est incroyable. Le peuple continue de donner. Il y a trop. Il faut... Non, stop, arrêtez de donner là. Ça n'arrivera pas, les amis. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société matérialiste. Et le matérialisme a corrompu aussi même le cœur de la plupart des chrétiens. C'est-à-dire qu'on pense qu'en possédant, on est en sécurité. Et ça, c'est un piège aussi qui est en train d'entrer dans l'Église aujourd'hui. Vous savez ? C'est un piège aussi qui nous frappe, qui me frappe, le matérialisme. De penser que parce que je possède des choses, je suis en sécurité. Et vous savez, un chrétien qui vit les mains fermées, c'est un chrétien qui n'est pas béni. C'est un chrétien qui ne va pas faire grand-chose dans sa vie. Certes, il aura du matériel à profusion peut-être. Tu rentres dans sa maison, il a deux voitures, c'est incroyable. Mais il vit les mains fermées. Et quand il va s'en aller au ciel, il va se rendre compte qu'il n'aura rien emporté avec lui. Et parce qu'il n'aura pas ouvert ses mains pour l'œuvre de Dieu, ce sera un chrétien pauvre. Pauvre aux yeux de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ? Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit « On ressemble jamais autant à Jésus que quand on vit les mains ouvertes. » Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il avait les mains ouvertes. Il avait les bras ouverts comme ça. On ne pouvait pas ouvrir plus grand ses bras. Il était en train de dire « Voilà l'amour que je vous porte. Je veux que vous viviez de cette façon. La façon dont que vous m'avez vu vivre, voilà l'exemple que je vous laisse, a dit Jésus. Vivez les bras ouverts, vivez les mains ouvertes. » Et ça aussi, ça compte pour nos finances, ça compte pour comment Dieu il nous bénit matériellement. Parce que c'est facile ce matin de venir ici et de remercier Dieu avec notre bouche. Certainement, ça a de la valeur à ses yeux. Certainement, de chanter des chants de louange, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est une offrande agréable. Certainement, de venir à l'église le dimanche matin, c'est quelque chose qui est important, oui, certes. Mais c'est quelque chose qui ne nécessite pas vraiment d'effort de notre part, vous comprenez ? C'est pas un effort, c'est des choses qu'on fait assez naturellement. Mais quand il s'agit de mettre la main à la poche, ah là là, qu'est-ce que ça fait mal ! Qu'est-ce que ça fait mal ! C'est un effort, c'est quelque chose de tellement pratique qu'on ne veut pas le faire. Vous comprenez ? On veut pas le faire, on se dit non, mais ça, tu comprends, mon frère, c'est mon compte en banque, c'est mon argent, t'as pas droit de regarder là-dedans, c'est privé, c'est personnel, écoute. Mais qu'est-ce que faisait le peuple d'Israël ? À l'époque, ils n'avaient pas de compte en banque, qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient du bétail, ils avaient des richesses. Abraham était l'un des hommes les plus riches que la terre ait jamais porté à l'époque. Dieu a dit, cet homme est riche, et pourtant Abraham, il partageait avec tous. Et c'était quoi cette richesse à l'époque ? Aujourd'hui, ça aurait été qu'Abraham, il a un gros compte en banque. Vous comprenez ça ? Il faut transposer les choses, les amis. Il ne faut pas dire, oh oui, l'Ancien Testament, c'est tellement loin là, on n'arrive plus à les brebis, les vaches, les bœufs, les moutons. C'est dépassé, on est en 2016 presque, il faut arrêter avec ça. Il faut transposer les choses, les amis. C'est vrai que le temps a évolué. Mais à l'époque, ils étaient riches, ces gens-là. Et si tu faisais machine arrière, une machine qui remontait dans le temps, tu te retrouves sans compte en banque, et bien si tu avais 10 paires de brebis, tu es un homme riche. D'accord ? C'est ça la réalité. Et Abraham en avait bien plus encore. Mais qu'est-ce qu'il avait compris, Abraham ? Et le peuple d'Israël, il donnait. Il plongeait la main dans leur compte en banque, vous comprenez ? Dans leur richesse, il donnait, ils ouvraient les mains. Ils ouvraient. Et Dieu permettait qu'ils avaient toujours suffisamment, même au-delà de leurs espérances, pour eux-mêmes. C'est incroyable. Voilà ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui, les amis. Voilà le message que je veux adresser à l'église de Vigneux-sur-Seine, mais aussi à l'église universelle, même l'église rien qu'en restant en France. Vous savez, on a un potentiel extraordinaire de construire l'œuvre de Dieu ici en France. Et à l'époque, il s'agissait de construire un sanctuaire, un tabernacle. Et les gens en apportaient trop. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de construire ? Qu'est-ce qu'on construit ici à Vigneux-sur-Seine ? Qu'est-ce qu'on construit ? L'œuvre de Dieu, n'est-ce pas ? Et pour construire l'œuvre de Dieu, pour que ce bâtiment puisse, qu'on puisse pousser les murs, pour qu'on accueille des nouvelles âmes dans cette église, pour que l'évangile soit prêché, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de finances, les amis. C'est une partie réelle. On ne peut pas ignorer ça et mettre la main sur les yeux et dire « Non, mon frère, Dieu te bénisse. » On tape sur le dos et on le laisse partir. On ne peut pas faire ça. Vous savez ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça ? Si tu vois quelqu'un dans le besoin et tu lui dis « Dieu te bénisse », tu peux pas faire ça. Il faut que tu mettes la main à la poche et que tu dis « Bon, mon frère, tu es dans le besoin. Bon, voilà. Dieu m'a mis sur mon cœur. Voilà. » Et là, oui, c'est concret. Là, oui, tu es en train d'exercer ce que Dieu te demande de faire. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est difficile parce que les missionnaires à plein temps, les pasteurs à plein temps, les serviteurs de Dieu qui sont à plein temps ne peuvent pas toujours compter sur le reste du peuple pour subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est un problème. Et c'est pourtant le modèle que Dieu a établi, vous comprenez ? Et ce matin, je veux pas prêcher pour moi-même, hein, je ne suis pas là pour ça, les amis. Dieu nous bénit dans notre ministère, nous avons une équipe de soutien qui est en train de se former, qui est merveilleuse, qui est passionnée comme nous, qui veut que l'œuvre de Dieu avance. Et bien sûr, il y a encore de la place dans notre équipe. Mais je suis sûr qu'il y a de la place aussi dans l'équipe de Jean-Claude. Je suis sûr qu'il y a de la place dans n'importe quelle équipe d'une œuvre missionnaire que tu connais, francophone, des gens qui ont été appelés à plein temps. Et ah non, mais en France, on fait pas ça, mon frère. En France, on demande pas. Hein. Ça se fait pas. En France, tu pries à Dieu, il va te donner. Hein. Tu partages pas tes besoins. Ah oui ? Vraiment ? Vous pensez ça ? Alors que Dieu spécifiquement, là, demande à son peuple. Il demande, il dit, vous allez donner. Et Dieu est très intentionnel et il veut favoriser et créer l'interdépendance au sein de son peuple. C'est pas beau ça ? L'interdépendance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'est pas tous les amis, pas tous sont appelés à plein temps. Ça, je le reconnais. Il y a des frères et sœurs ici dans cette assemblée qui ne sont pas à plein temps. Oui. Mais vous savez ce que je comprends dans la parole de Dieu ? C'est que nous sommes tous appelés à donner. Tous autant que nous sommes, plein temps ou pas. Selon comment Dieu t'a béni dans ton travail, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Est-ce que tu vas le garder au fond de tes poches en disant, en pensant que ce qui compte vraiment, c'est que cette vie, et tu es en train de te tromper toi-même, et quand tu meurs, tout reste en bas ? Ou est-ce que tu veux transférer quelque chose pour l'éternité ? Tu veux transférer de ton compte bancaire terrestre au compte bancaire céleste. Et c'est ça ce dont on est en train de parler ce matin, les amis. Et si tu as mis ton offrande de bon cœur dans ce panier tout à l'heure, tu es en train de transférer de ton compte bancaire terrestre au céleste. Et tu vois pas tout ce que ça peut rapporter. Mais je t'assure que ça va rapporter énormément. Sauf que Dieu, dans sa sagesse, nous le montre pas encore. Parce que ce serait un sujet d'orgueil aussi, peut-être. De dire, oh, regarde un peu ce que je donne à Dieu. Je suis un chrétien excellent. Non, non. Continue de donner. Un jour, tu verras. Mais pas tout de suite. En tout cas, voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Les dons par grâce, un cœur généreux, il y en a trop, il faut arrêter. Et alors, on arrive aux offrandes du Nouveau Testament. Parce que je ne vais pas m'arrêter avec l'Ancien Testament, ce serait trop facile. Et je pense que ce serait un piège pour certains de dire « Ah oui, non mais Alex, tout ça c'est fini. Hein. » Aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament. Alors, ça ne nous concerne pas tout ça. Ben, on va voir qu'est-ce que Dieu dit dans le Nouveau Testament. Hein. On y va ? Vous êtes d'accord ? C'est pas facile, hein ? Offrande du Nouveau Testament. Alors, Paul y fait l'éloge ici des Macédoniens dans 2 Corinthiens chapitre 8. On va lire ensemble avec moi 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Regardez ce que Paul dit. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Et ici, on ne parle pas juste de quelque chose d'abstrait ou de spirituel. Hein. Ici, on parle d'argent, les amis. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, ça dit ici. Et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément, avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Des chrétiens extraordinaires, les Macédoniens, une extrême pauvreté. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on peut dire qu'on est dans les chaussures des Macédoniens, les amis. Je ne sais pas s'il y a des gens ici dans cette salle qui sont dans l'extrême pauvreté. J'en doute. Pas en tout cas comme les Macédoniens. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. Vous savez, ce petit mot « extrême pauvreté », c'est une extrême, une pauvreté profonde. Et en fait, quand on lit ce mot, on voit que c'est le mot utilisé pour le petit bathyscaphe qui va explorer les fonds sous-marins. Vous rappelez avec le commandant Jacques Cousteau, à l'époque, pour ceux qui se souviennent, quand ils vont explorer les fonds marins, vous vous souvenez, avec des petits submersibles, ils vont très profondément dans les océans, n'est-ce pas ? Bon, ça, c'est le terme employé ici. Une extrême, une profonde pauvreté. Et malgré ça, ils ont décidé, ils ont eu l'initiative. En fait, ils débordaient de joie. Ils ont demandé à Paul, « S'il te plaît, Paul, laisse-nous participer. » Quelle initiative extraordinaire ! Je rêve de voir cette initiative dans les églises en France aujourd'hui. Des chrétiens qui s'approchent des serviteurs à plein temps et qui disent « Je veux participer, comment je peux faire ? Laisse-moi, s'il te plaît, participer. Laisse-moi participer, même si j'ai pas grand-chose. Je veux participer parce que je sais que c'est une œuvre pour l'éternité. Je veux participer de l'éternité. Je veux pas amasser juste pour moi-même, ça vaut rien, ça. Certes, nous avons tous des besoins, nous avons besoin de manger, de nous vêtir, bien sûr. Mais le reste, ces chrétiens-là, ils ont donné, ils ont demandé à Paul cette occasion incroyable. Ils ont dit, Paul, même si on est pauvre, laisse-nous participer, s'il te plaît. Et même si tu ne nous laisses pas, on va quand même participer. Extraordinaire. Et Paul, il ne pouvait rien faire. Il dit, ok, d'accord. Vous êtes d'une extrême pauvreté, mais c'est extraordinaire. Vous êtes un exemple. Et aujourd'hui, c'est quoi la pauvreté aujourd'hui, les amis ? Bon, on va rester en France parce que je ne veux pas sortir de notre contexte. Vous connaissez bien aussi les pays en Afrique, certaines îles. Enfin, on ne parle pas de la même pauvreté, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, les chrétiens, nous, quand on peut pas aller au ciné ou quand on peut pas aller au resto, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, je suis pauvre. Je suis pauvre, écoute. Non, ce soir, je peux pas aller au ciné. Non, je peux pas aller au resto, voilà, tu vois, j'ai pas autant d'argent que toi, quoi, mon frère. C'est ça, être pauvre ? Les amis, il faut arrêter, là. Vous rigolez ou quoi ? C'est pas ça, la pauvreté. Aujourd'hui, on utilise nos cartes de crédit, n'est-ce pas ? On a le privilège d'avoir des cartes de crédit. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes de crédit ? Bon, bien sûr, j'ose espérer qu'on les utilise bien. Mais vous savez, j'ai rencontré des personnes qui avec ces cartes de crédit qu'on met entre leurs mains, ils achètent des choses qu'on n'a pas besoin, qu'ils n'ont pas besoin, avec l'argent qu'ils ne possèdent pas, pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. Est-ce que ça vous est arrivé de croiser ces gens-là ? Ils utilisent leur carte de crédit pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils ne possèdent pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est ça le monde dans lequel on vit, n'est-ce pas ? Ça, c'est notre monde, les amis. On ne peut pas se laisser embarquer par ce courant de monde. L'Église doit changer de mentalité, n'est-ce pas ? On doit changer, on ne peut pas vivre comme ça. On doit comprendre que l'argent qu'on investit pour l'œuvre de Dieu, c'est un trésor éternel, c'est extraordinaire. C'est amasser un trésor dans les cieux, vous vous souvenez ? Quand Jésus il a dit, ne vous amassez pas un trésor qui rouille, qui prend la rouille, qui se détruit. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il parlait d'argent aussi. Il disait, prends ton argent et jette-le dans l'éternité. Bon, pas littéralement, bien sûr. Comment tu peux faire ça ? En soutenant ton église, en soutenant ton pasteur, en soutenant des missionnaires, des serviteurs que Dieu a appelés à plein temps pour faire une œuvre éternelle. Et ces personnes appelées à plein temps, elles s'attendent à ce que le peuple de Dieu réponde présent, qu'ils comprennent et qu'ils demandent, comme ces Macédoniens, qui disent « Je comprends ce que tu es en train de faire, mon frère. Dieu t'a appelé à plein temps. Extraordinaire. Laisse-moi, s'il te plaît, participer. J'en peux plus. J'ai trop là et j'ai de l'argent qui me reste. Il faut que ça parte dans l'éternité. De toute façon, quand je meurs demain, tout ça, ça reste en bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je sais que certains, ce matin, vous luttez en vous-même. C'est difficile pour vous. Il y a des gens qui luttent ce matin, qui n'aiment pas entendre ce genre de message. Ça, je le sais. Comme je vous ai dit, j'invente rien. Si j'inventais quelque chose, là, tu aurais raison de prendre une pierre pour me la jeter, peut-être. C'est Dieu qui a instauré ce moyen de fonctionnement au sein de son peuple. Et nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Alors, les Macédoniens, ils n'avaient rien. Et vous savez, ils ont eu cette grâce de donner que ça n'avait rien à voir avec leurs ressources, en fait. On voit ça. Ce n'est pas selon nos capacités, mais ils l'ont fait avec empressement, avec privilège, dans la joie. Ils ont même demandé, supplié d'avoir l'occasion de donner plus. Mais vous savez, c'était quoi la clé des Macédoniens ? Regardez le verset 5 de Corinthiens 8, 5. Qu'est-ce que ça dit ? Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Il ne faut pas inverser les choses, les amis. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Amen. Impossible d'être un bon administrateur des biens que Dieu met entre tes mains si tu d'abord te donnes pas au Seigneur. C'est pas possible. Qu'est-ce que dit Romains 12 ? Romains 12, 1. Vous connaissez ce passage par cœur. Paul y supplie, il dit... Selon ce que Dieu t'a montré dans sa grande miséricorde, il faut que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Il faut que tu te donnes d'abord à moi et ensuite je peux disposer de ta vie. Ce matin, je te pose une question. Est-ce que tu t'es déjà donné au Seigneur ? Ah ah ! Parce que tu ne vas pas pouvoir disposer des richesses que Dieu met entre tes mains si tu ne t'es pas d'abord donné à lui. Cet acte d'amour, cet acte passionné, de dire « Seigneur, j'ai compris que ma vie, elle t'appartient. » Donc ça veut dire que même toutes les richesses que tu mets entre mes mains, même tout cet argent qui tombe dans mon compte en banque, mois après mois, je comprends que ça ne m'appartient pas. Je comprends que c'est pour toi. Je comprends que c'est pour ton œuvre, c'est pas pour moi. Oui, Seigneur, tu pourvois mes besoins et j'en suis content et tu es fidèle. Mais tout le reste, Seigneur, je veux l'investir pour l'éternité. Je ne peux pas m'en aller avec un compte en banque rempli, ça n'a pas de sens. Je ne veux pas m'en aller de ce monde avec un compte bancaire rempli. Avec 5 000 ou 10 000 euros. C'est ridicule. Je veux investir cet argent. Alors bien sûr, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire de vous appauvrir complètement hein, et de tout vider pour le Seigneur. Non, 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 il faut être sage, bien sûr. On est sage, on met de l'argent de côté, on épargne, on a des projets, n'est-ce pas ? Bien sûr, il faut être sage. Mais il y a une grosse partie, vous avez vu que c'est bien plus que 10%. Bien plus. C'est pas juste la dîme, ça ne s'arrête pas juste à l'église locale. C'est ça que Dieu il veut que vous compreniez ce matin. Il y a d'autres œuvres, il y a d'autres serviteurs à plein temps. Il y a des choses dans lesquelles Dieu veut que tu sautes, que tu t'engages à plein temps. Certains d'entre vous, vous connaissez bien le sel, n'est-ce pas ? Vous connaissez Portes Ouvertes, vous connaissez des ministères comme ça, vous connaissez JPC, peut-être Agapé, la CIM. Voilà, il y a plein de choses peut-être. Peut-être Dieu est en train de toucher ton cœur ces temps-ci. Et j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu attends ? pour contacter ces personnes, pour envoyer un email, pour dire, écoute, Dieu me bénit par ton ministère, j'apprécie ce que tu fais, Dieu a touché mon cœur, je reçois les nouvelles, je prie pour toi, je ne veux pas juste prier pour toi, je veux aussi transférer mon argent dans l'éternité en vous soutenant. Waouh ! Est-ce que Dieu est en train de toucher ton cœur de cette façon ce matin ? Et si Dieu touche ton cœur pour ton église locale, pour ton pasteur, pour la famille pastorale ? Dieu touche les cœurs. Je ne suis pas là pour dire tu dois donner à tel ou tel organisme. Dieu touche les cœurs. Dieu est parfait. Dieu met le fardeau dans chaque cœur. Et Dieu veut que chaque chrétien soit disponible à donner selon le fardeau qu'il met dans chaque cœur. Et j'aimerais te dire ce matin que si seulement tu es en train de mettre de l'argent juste dans ton église locale, il y a un problème. Ça ne s'arrête pas à l'église locale. Ce n'est pas juste une case que tu coches en disant « c'est bon, j'ai fait mes 10%. » Tu dois chercher plus d'opportunités, mon ami. Il n'y a pas que l'église locale. Il y a des gens qui ont été appelés à plein temps sur cette planète. Des serviteurs, des servantes qui s'attendent au peuple de Dieu pour qu'ils répondent présents. Amen. Et comme je t'ai dit, il y a des ministères dans lesquels tu peux remercier Dieu pour ce que tu as d'une façon concrète. D'une façon concrète. Alors, maintenant, juste pour terminer, j'aimerais juste donner des façons pratiques dans lesquelles tu pourrais t'engager, d'accord ? Alors d'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse à notre mental, d'accord ? Parce que si Dieu arrive à transformer ta mentalité, ta façon de penser, et je sais qu'il y a certains chrétiens ici dans cette pièce que vous avez déjà votre mentalité transformée, vous êtes déjà en train d'investir une quantité certaines d'argent dans le royaume de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et Dieu voit ça et Dieu vous bénit. Mais il faut d'abord changer notre façon de penser. Il faut comprendre que donner ne fait pas de moi un meilleur chrétien que les autres, ni ne me valorise pas plus devant Dieu qu'un autre. Vous comprenez ça ? Donner ne fait pas de moi un meilleur chrétien que les autres. Non. Il faut faire attention. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. On n'est pas là pour montrer aux autres qu'on donne. Ça ne fait pas de moi un meilleur chrétien. Ça ne me valorise pas plus devant Dieu. Même si donner ne gagne pas la faveur de Dieu, et ça, il faut en être conscient parce que Dieu voit les cœurs, c'est sûr qu'il apporte des bénédictions. Ça apporte des bénédictions et c'est des bénédictions essentiellement spirituelles, mes amis. Il faut comprendre que l'argent physique bien concret que l'on transfère dans le royaume de Dieu, ça apporte des bénédictions spirituelles pour ta vie. D'accord ? On n'est pas en train de prêcher l'évangile de prospérité ici, hein. Ça ne marche pas. C'est pas du tout ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pas plus tu donnes et plus Dieu va te donner. Non. Plus tu donnes, plus toi tu seras béni. Et Dieu va répondre à tes besoins et va te soutenir. Vous savez, nous, ça fait 9 ans qu'on est missionnaire à plein temps avec Parole de Vie. Et jamais, jamais, les amis, on a été dans le besoin. Jamais Dieu nous a fait défaut. Dieu a été fidèle. Alors, bien sûr, il ne nous a pas rendus riches, bien sûr que non. Mais je peux dire qu'à chaque circonstance, chaque situation dans laquelle on s'attendait à lui, pour X raison ou X projet ou pour la voiture, je ne sais quoi, Dieu a répondu fidèlement. Il nous a toujours donné exactement ce dont on avait besoin. Et il ne nous a pas donné plus. Il ne nous a pas donné moins. Ça, c'est la façon de Dieu de faire, vous comprenez ? Parce que Dieu, s'il nous donne trop, il sait que c'est un piège pour nous. Il sait que c'est un piège pour notre âme. Donc, il veut nous donner le strict nécessaire. Il veut nous donner parfaitement ce dont on a besoin. Mais si on se rend compte qu'à la fin du mois, il y a un petit peu d'argent sur le compte et qu'on est là, ah, c'est trop cool, je suis tranquille. Dieu dit, et cet argent, tu peux aussi l'investir pour l'éternité. Tu peux. C'est ton choix. Et même, on va voir qu'on peut faire quelque chose de plus. L'offrande qui plaît à Dieu est généreuse et le fruit d'un sacrifice. On l'a vu avec les Macédoniens, n'est-ce pas ? Malgré leur extrême pauvreté, vous vous souvenez de cette veuve aussi qui a donné. Jésus, il regardait les riches mettre dans le tronc, vous vous souvenez ? Et pour lui, les riches, ça valait rien pour lui. Mais cette veuve, elle a donné une petite pièce et c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était tout ce qu'elle avait. Et Jésus a dit : voilà comment je veux que vous donniez. D'un sacrifice, d'un cœur généreux. Et je suis convaincu que cette petite veuve-là, tous ses besoins ont été comblés à la suite de cette offrande. La Bible ne le dit pas, mais je suis convaincu que tous ses besoins ont été comblés. Dieu a été fidèle avec cette petite veuve, c'est sûr, parce qu'elle a donné de sa personne. Elle n'a pas donné de son superflu, elle a donné vraiment avec un cœur généreux, un sacrifice. Et après, ce que tu veux donner, Eh bien, il faut que ça se décide entre toi et Dieu. Bien sûr, ça nécessite des prières. On prie. Si tu es marié avec ta femme, avec ton mari, dis voilà, Dieu touche mon cœur par rapport à tel ministère, tel organisme, telle église, tel pasteur. Qu'est-ce que tu penses? Combien est-ce qu'on peut donner? On regarde nos finances, on prie, et après, on le fait. On le fait, les amis. On le fait. Il y a trop de chrétiens qui sont là en mode oui, t'inquiète, je continue de prier. Oui, oui, je sais, ça fait 3 ans maintenant, mais je continue de prier. Ça, c'est pas ce que Dieu demande. On le fait. On n'attend pas 6 mois, 1 an. On le fait. Et donc, maintenant que si notre façon de penser a été transformée, on passe à l'action. Donc, nos dons financiers doivent suivre ou accompagner le don de nos vies à Dieu, n'est-ce pas? Les Macédoniens se sont d'abord donnés au même Seigneur. Un culte d'adoration en privé est nécessaire devant Dieu avant de disposer de nos richesses pour lui. Amen. D'abord nous donner à Dieu. D'abord. Comprendre que c'est de lui que viennent toutes les richesses. Je dirais par la suite qu'il est fortement recommandé de commencer avec au moins 10%, qui est un minimum, les amis. 10% est un minimum, d'accord ? Quand on parle de la dîme aujourd'hui, vous savez que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus question de dîme. La dîme, c'est fini. J'entends trop le mot dîme dans la bouche des chrétiens aujourd'hui. Et c'est un mot qui rend la position du chrétien confortable. On se dit, ouais, t'inquiète, moi je donne 10%, c'est fini maintenant. Il n'y a pas le mot dîme dans le Nouveau Testament. Cherchez, vous ne le trouverez pas. Il se trouve seulement dans l'Ancien Testament. C'était un exemple que Dieu a donné. C'est un bon point de départ. Mais après, Dieu il s'attend à ce qu'on donne beaucoup plus que 10%, bien sûr. On ne reste pas juste avec 10%. C'est un bon début, c'est un bon commencement. Et il n'y a pas juste l'église locale. Peut-être que ta famille a été bénie par tel ou tel ministère. Je ne sais pas, le ministère parmi l'église persécutée, j'en sais rien. Peut-être que tu as des histoires à raconter. Que toi-même, tu as été béni par tel ou tel ministère. Mais il faut que tu investisses aussi ton argent dans ce ministère-là. Il faut que tu restes comme ça en disant « Dieu va pourvoir, t'inquiète pas ». Non ! Ils s'attendent au peuple de Dieu, ces gens-là. Ils s'attendent au peuple de Dieu. Donc, fortement recommandé de commencer avec 10%. Et le total des offrandes des Macédoniens a dû excéder 10% parce que 10% de leur pauvreté extrême n'aurait pas fait grand-chose à personne. 10% de leur pauvreté extrême, c'était pas grand-chose. Je pense pas que ça aurait grand monde. Donc, à mon avis, ils ont largement dépassé les 10%. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Quel exemple pour nous, les amis. Ensuite, je dirais, il faut qu'on puisse donner sur une base régulière. Qu'est-ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 16? Là, on est dans le Nouveau Testament. Il n'est pas question de dîme ici. Ça dit 1 Corinthiens chapitre 16, que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Que chacun mette de côté selon sa prospérité, selon ce qu'il aura gagné, selon comment Dieu t'a béni dans ton travail, mon ami. Tu mets de côté. Là, ça dit chaque dimanche. Aujourd'hui, souvent, on fait chaque mois, n'est-ce pas? Chaque mois ou chaque dimanche, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, on met de côté une certaine somme pour le Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous partager juste une pensée sur la fidélité. Ah, mon cœur boue ce matin, les amis, parce que je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Je le lis de la parole de Dieu, j'ai appris tellement de choses et je dis, mais il faut que j'en parle à mes frères et sœurs de Vigneux. Il faut que j'en parle à plus de personnes parce que l'Église francophone doit se réveiller. Il y a de l'argent dans l'église francophone qui dort, ça c'est sûr. Et cet argent ne peut pas rester endormi. Il faut l'investir dans l'éternité, mes amis. Il faut l'investir. Et je sais que certains d'entre vous, vous luttez ce matin. Vous dites, ah, Alex, t'es en train de toucher la corde sensible. Hein. Tu continues à parler de ça, je vais me lever, je vais partir. Hein. Ah oui ? Mais après, il faut que tu ouvres ta Bible et que tu te mettes devant Dieu. Donner d'un cœur joyeux. Alors, psaume 91, regardez ça. Psaume 91, un psaume qu'on connaît bien. Le verset 2 dit quoi ? Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai mis ma confiance. Ma confiance. Et après, ça dit quoi au verset 4 à la fin ? Sa fidélité est un bouclier elle est une armure. Les amis, on parle de la fidélité de Dieu qui est un bouclier, qui est une armure. C'est quoi la caractéristique d'un bouclier ? Ça me protège, n'est-ce pas ? C'est quoi la caractéristique d'une armure ? Ça me protège aussi. Ça me donne la sécurité. En fait, le fait d'être en Christ, le fait d'être en Dieu, c'est un bouclier pour moi et c'est une armure. Ça veut dire que quand j'ai déposé ma foi en Christ, je sais qu'il ne me fait pas défaut. Je sais en qui j'ai cru et je sais que mon espérance n'est pas de ce monde. Amen. Et que quand je meurs, je sais où je vais parce que j'ai déposé ma foi dans quelqu'un qui est comme mon bouclier, qui est comme mon armure, en qui je peux faire confiance. Et tu peux te lever tous les matins, Dieu est toujours là avec toi. Amen. Et ce soir, devine quoi, le soleil, il va continuer de se coucher. Et demain matin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se lever encore. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça c'est la fidélité de Dieu. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Tu peux compter sur lui. La terre continue de tourner. Le soleil se couche, le soleil se lève. Les saisons continuent. Dieu est fidèle. Et jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, ça va continuer comme ça. Et tu peux t'appuyer sur sa fidélité. Qu'est-ce que c'est beau, non ? De pouvoir s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Moi, je dis, c'est incroyable. Chaque jour, chaque matin, chaque circonstance, même parfois quand la mort frappe mon foyer, je ne sais pas, avec le décès des uns ou des autres, quand c'est difficile et la maladie frappe mon foyer, Dieu est fidèle, amen. Dieu est là. Tu peux compter sur lui. Il ne s'en va pas. C'est toi qui t'en vas. Parfois, tu dis, oh Dieu, il n'est plus là. Oui, c'est toi qui es petit. Mais Dieu est là. Et donc, cette sécurité, c'est une stabilité pour nous. Amen. De la même façon, les amis, c'est notre devoir d'offrir la sécurité et la stabilité aux serviteurs de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ. Dieu compte sur ta fidélité. Dieu compte sur le fait que tu vas être un homme, une femme, consacré d'abord à l'Éternel, et disposer des richesses que Dieu a mis entre tes mains avec une grande fidélité pour donner à l'église de Vigneux-sur-Seine, par exemple, une grande stabilité. Au pasteur, une grande stabilité. Aux serviteurs, au ministère, aux missions, une grande stabilité. L'œuvre missionnaire aujourd'hui en France, que ce soit à travers l'église locale ou ailleurs, a besoin de la stabilité, de la fidélité de ses croyants. Amen. Vous savez ce qui se passe ce matin ? Je suis ici avec vous et pourtant je suis membre de l'église de Villers-le-Bel, donc à une heure d'ici, à côté des coins. Je suis actif, je suis ancien dans cette église, je suis responsable du groupe de jeunes dans cette église aussi. Dieu bénit cette église, Dieu l'a fait avancer et nous sommes contents de faire partie de cette église. Mais ce matin, je ne suis pas à Villers-le-Bel, je suis ici avec vous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand ils ont fait passer le panier d'offrande ? J'étais pas là, j'ai pas pu mettre dans le panier, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Le premier jour que je suis arrivé dans cette église, j'ai demandé le RIB de l'église. J'ai dit, voilà, je vais mettre en place un paiement mensuel. Et comme ça, quand je ne suis pas dans cette église, de toute façon, mon cœur y est. Et de toute façon, l'argent sort de mon compte. Et de toute façon, je suis fidèle. Amen. Les amis, aujourd'hui, on a des moyens modernes d'être fidèle à Dieu, si je puis dire comme ça. Tu peux demander, prends l'initiative. Dis pas, oh, j'ai loupé un dimanche, je ferai la suivante. Ouais, oui, mais bon, le pasteur et l'église, elles comptent sur toi. Et dis, ah, pourquoi nos offrandes, elles sont comme ça ? On peut pas faire de projet, là, c'est compliqué. Parce qu'un tel met un dimanche, après, il est pas là, après, il met plus, après, il met. C'est compliqué, non ? On a besoin d'une stabilité, d'une fidélité. Donc, qu'est-ce que tu peux faire à la fin du culte ? Tu vas voir ton pasteur, tu vas voir la personne responsable, le trésorier, tu dis, écoute, donne-moi le RIB de l'église. Donne-moi ce RIB. Je vais le rentrer dans mon compte bancaire et je vais faire un virement mensuel. Et même si les gens ne me voient pas mettre physiquement dans le petit panier, c'est pas grave. Je sais, je suis conscient devant Dieu que je suis obéissant, je suis fidèle. Et est-ce que ça change le fait de voir quelqu'un mettre ou de ne pas mettre ? Ce qui compte, c'est le cœur, les amis. Ce qui compte, c'est ta fidélité, ce que tu mets dans ce panier. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ce système qui est super parce que en tant que serviteur du Seigneur à plein temps, bah, j'ai des obligations, je voyage beaucoup, je suis dans différentes églises, différents week-ends de jeûne, etc. Donc je ne suis pas forcément tous les dimanches à Villers-le-Bel. Et ça, je le savais. Donc j'ai dit au pasteur, tu peux compter sur ma fidélité. Je serai là le plus souvent, 2 voire 3 dimanches par mois. Je vais essayer d'être là. Mais quand je ne suis pas là, de toute façon, on est vous des offrandes, c'est pareil. Ça sort de mon compte. Je fais un virement mensuel et j'oublie quelque part. Voilà, il y a cette solution. Et chaque fois que le pas dépasse, même si physiquement je ne mets pas, dans ma tête, je dis, voilà Seigneur, reçois avec joie cette offrande que je te fais. Je sais qu'elle sort. Voilà, je suis fidèle. Amen. Mais je dis ça pour vous encourager, les amis. Il y a des moyens très simples aujourd'hui. Il ne faut pas penser que tu vas être fidèle et tu vas te dire non, oui, tous les dimanches, je vais faire un chèque, ça va aller. Il y a des dimanches où le chèque ne va pas se déposer parce qu'on est comme ça, on est des êtres humains. On a besoin des rappels, on a besoin des alarmes, on a besoin de mettre des choses automatiques, mensuelles, n'est-ce pas? On a besoin de ça. Si tu veux trouver une autre façon, bah, tu n'as qu'à signer 12 chèques, tu mets 12 fois la même somme et tu donnes au trésorier de l'église et tu dis voilà, chaque mois, tu déduis le chèque. À chacun de trouver sa méthode. Moi personnellement, voilà, je suis une génération un petit peu plus jeune, donc j'aime bien faire les choses par internet et ça me convient. Je le fais avec le RIB et j'envoie ça mensuellement, voilà. Et aussi à d'autres missions. Et vous savez, la joie qu'on a de participer à l'œuvre de Dieu, c'est extraordinaire. Et je dis ça aussi parce que en tant que serviteur à plein temps, nous avons aussi le privilège, les amis, de participer à d'autres œuvres missionnaires. Nous soutenons d'autres œuvres missionnaires. Et tu dis, oui, mais Alex, toi, t'es missionnaire, c'est toi qu'on doit soutenir, c'est pas les autres. Mais non, non, moi, j'ai dit, mais le fait de donner, c'est un commandement, c'est pour tout le monde. Donc, ça me revient aussi. Et j'ai la joie de participer aussi à d'autres œuvres missionnaires. Et vous savez quoi? Chaque fois que l'argent sort de mon compte, ben, ça me fait plaisir. Et quand je reçois les nouvelles des jeunes qui se convertissent ou des gens qui passent de la mort à la vie, je dis merci Seigneur pour ce trésor éternel que nous sommes en train d'amasser ensemble. C'est extraordinaire, je fais partie d'une équipe extraordinaire. Amen. Amen, c'est extraordinaire les amis. Donc je vous parle de quelque chose que je fais et pas quelque chose que je fais pas. Alors, donner d'un cœur joyeux, j'allais dire maintenant pour terminer, parce que je sais que le temps lance, mais bon, j'en profite, hein, on ne se voit pas très souvent, donc ça ne vous dérange pas si je dépasse un peu sur l'heure. Les amis, ce que tu as décidé de donner à Dieu en reconnaissance, parce qu'on est dans un jour de reconnaissance à Dieu, et je sais que c'est facile de venir chanter, prier, manger ensemble. Oui, oui, d'accord, on manifeste notre reconnaissance, mais quand il envoie un portefeuille, aïe, 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 ça change. Et vous savez ce que j'ai fait dans ma propre vie avec Ingrid? On a fait quelque chose, on a dit, ok Seigneur, on a conscience que ce qui rentre dans notre compte pour notre soutien, ça ne nous appartient pas. Donc chaque premier jour du mois, de toute façon, on a décidé de te rendre et de te donner la part qui t'est due. Donc vous savez ce qu'on fait? On n'attend pas la fin du mois pour voir ce qui nous reste pour donner. On le fait au début du mois. Comme ça, on sait que ce n'est pas une tentation. Et comme ça, on sait qu'on est fidèle avec ce que Dieu nous donne. Donc les premiers jours du mois, si je te montrais mon compte ce matin, tu vas voir, tac, il y a une certaine somme qui sort pour différents organismes, pour mon église, voilà. Bref. Et j'attends pas le 28 du mois pour dire, ah, qu'est-ce qui me reste? Ah, ok, ce mois-ci, je peux donner. Vous savez, c'est ça qui a tué Caïn. Vous savez, Caïn, il a donné les restes, il a attendu quelque part la fin du mois, tu vois. Al-Kabel, il était là, le premier. Il a tout donné. Et Dieu a dit, voilà, c'est une offrande qui me plaît. Et vous savez quoi? Ça, c'est un acte de foi. Oui, c'est un acte de foi, parce que ça veut dire que je ne sais pas comment le mois va se terminer, mais Seigneur, je te fais confiance. Et au début du mois, ça sort pour ta gloire, et je n'y pense plus. Et le reste, ça sert aussi, bien sûr, pour me nourrir, pour me vêtir, pour voilà, faire mes choses, faire mes projets. Mais il y a une partie qui est intouchable, qui ne m'appartient pas. Vous voyez la façon dont je raisonne? Cette somme d'argent-là, que j'ai décidé de donner à Dieu, que ce soit 10, 15, 20, 30%, elle ne m'appartient pas. Elle est pour le Seigneur. Donc de toute façon, elle va sortir parce que je vais être fidèle et parce que j'ai expérimenté à travers les années qu'en faisant de cette sorte, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et comme j'ai dit, on n'est pas riche, bien sûr que non. Mais Dieu regarde la personne et les priorités de chaque chrétien et ça va aussi pour ton compte bancaire. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu attends la fin du mois pour savoir ce qui te reste pour dire à Dieu, voilà, ça c'est la fin, c'est pour toi Seigneur. J'espère pas. Jésus-Christ a dit, il y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir, c'est pas moi qui le dis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur, les amis. Et nous, on se réjouit de l'équipe que le Seigneur est en train de construire. Une équipe de soutien financier, des gens qui donnent, qui sont passionnés, qui aiment ce qu'on fait avec le ministère. Et il y a du bonheur pour eux à donner. Et c'est extraordinaire, et on aime ça. Et c'est pas juste une affaire d'argent, là. On parle de transférer cet argent dans l'éternité. On parle de s'amasser ensemble un trésor dans les cieux. Dans les cieux. Amen. Amen. Donc voilà, juste pour terminer ce matin, je voudrais terminer par une petite illustration. Et j'espère que ça va ce matin, que je ne vous ai pas trop retourné la tête. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est pas moi. Le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur et j'ai dit, bon, bien sûr, on peut prêcher sur le fait d'être reconnaissant, mais quelles sont les façons pratiques de démontrer au Seigneur notre reconnaissance ? Eh bien, essentiellement, je trouve qu'il y a énormément de besoins aujourd'hui dans l'Église francophone et que les chrétiens sont trop proches de leurs sous aujourd'hui et qu'il faut changer ça. Il faut changer ça et ça passe par la parole de Dieu, ça passe par un changement de mentalité, ça passe aussi par le fait que les chrétiens vont se consacrer au Seigneur d'abord avant de faire autre chose. Amen. Et si tu t'es pas consacré à Dieu d'abord, bah, le fait de donner, ça va pas marcher. Hein. Parce que le Seigneur il demande d'abord ta vie. Alors voilà, on va supposer que cette corde, peut-être tu as déjà vu un petit peu l'illustration, on va supposer que cette corde, ça vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça super. Cette corde, on va dire que c'est l'éternité, d'accord ? Voilà, la corde blanche, là, je vais la faire partir et la faire aller jusque là-bas. On va imaginer qu'elle continue. Voilà, on va imaginer qu'elle continue, qu'elle n'a pas de fin, qu'elle est partie là-bas derrière la porte et que c'est pour l'éternité, voilà. Ça, c'est l'éternité que Dieu a en réserve pour nous. Amen. C'est extraordinaire. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, pourquoi on vit ? Pour ce petit morceau rouge là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la vie que Dieu nous donne. La vie que Dieu nous donne en comparaison de l'éternité. C'est rien du tout, les amis. Voyez, qu'est-ce qu'on fait là ? On se dit, bon, ok, je suis né ici. Après, voilà, je vais me marier ici. Avant, je fais mes études, bien sûr. Je décroche un bon boulot pour avoir une bonne paye. Comme ça, je serai tranquille. Après, je me marie. Après, j'ai des enfants. J'arrive à peu près ici. Voilà, mes enfants se marient. Bon, c'est à peu près la moitié de ma vie, plus ou moins. Et puis là, bon, j'ai un petit peu plus d'argent qui rentre dans mon compte. Donc, j'amasse. Parce que je me dis que là, il arrive la retraite ici, en dernier, là. Et il faut que je vise bien pour la retraite. Donc, j'amasse tout ce que je peux dans ce petit filon rouge. Et qu'est-ce que tu fais de l'éternité, là ? Qu'est-ce que tu fais de toute cette éternité ? La Bible dit que le souffle de l'homme, c'est comme une vapeur, les amis. Nous sommes des vapeurs. Demain, nous sommes en 2016. Après-demain, nous serons en 2058. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que son retour est proche. Amen. Et ce qui est sûr pour moi, c'est que je ne veux pas me retrouver quand le Seigneur arrive de me dire « Zut, j'ai investi toute ma vie dans ce petit morceau rouge. Je ne me rendais pas compte ce qu'il y avait derrière. Je n'ai pas compris la dimension éternelle de la vie chrétienne. » Et même par rapport aux actes de remerciement, même par rapport à mes offrandes, je n'ai pas compris. J'ai tout gardé pour moi. Je voulais m'acheter un yacht. Je voulais m'acheter une BMW. Je voulais m'acheter une grande maison, faire une piscine et tout. Je n'ai pas compris que en fait, tout ça, je ne porte pas au paradis. Il y a trop de chrétiens, mes amis, qui brûlent ce petit morceau rouge par les deux bouts. Ils brûlent ça par les deux bouts. Ils ne se rendent pas compte. Des gens même dans nos églises. Des gens qui ont des moyens aussi financiers, mais qui n'investissent rien pour l'éternité. Qui investissent tout là-dedans. Et ils mettent toute leur sécurité dans ce petit morceau rouge. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Et moi, quand j'ai vu cette illustration, vraiment, ça m'a remis en question, ça m'a donné quelques claques. Je dis, waouh, Seigneur, demain, si tu reviens, je veux vraiment investir, vraiment, ma vie, je veux la mettre à ton service, parce que je comprends que derrière, il y a l'éternité. Et même par rapport à mes finances, mes actions de grâce, comme on les appelle. Ce matin, on vit une action de grâce, les amis. Ça passe aussi par les finances. Qu'est-ce que tu es en train d'investir pour l'éternité ? Qu'est-ce que tu es en train de donner au Seigneur pour son œuvre éternelle ? Es-tu fidèle ? Ou c'est juste quand tu penses comme ça de temps en temps, tu coches la case, tu dis c'est bon, j'ai fait ma BA, ma bonne action. Ou est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu te rends compte que tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est pour lui aussi? C'est pas que pour toi. C'est pas que pour ton petit confort. Et je suis sûr que nous tous ici ce matin, nous avons un certain confort. Et c'est bien. Mais le reste, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes juste 10%? Alors je suis conscient ce matin que j'ai bousculé pas mal de vos façons de penser. Mais je me réjouis de ce que le Seigneur m'a mis à cœur parce que vraiment, je me suis dit, sérieusement les amis, j'ai prié devant le Seigneur, j'ai dit Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je partage ça? J'ai prié, j'ai dit Seigneur, voilà, on est dans une journée de reconnaissance, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Et le Seigneur m'a mis tout ça à cœur. Il m'a dit, voilà, la reconnaissance, tu sais quoi, ça passe par ce que je mets entre tes mains. Ça passe par là. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es reconnaissant? Et une façon d'exprimer sa reconnaissance, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Et ce matin, on ne parle pas tant de la quantité, les amis. On a plusieurs, certains d'entre nous ont une capacité de donner plus que d'autres. On n'est pas là pour se juger ou se critiquer. On est là pour dire ce que Dieu me met à cœur, ce qu'il me donne, je le mets à son service. Et chacun, comme dit l'apôtre Paul, selon sa prospérité. Si c'est 10 euros chaque semaine, c'est 10 euros chaque semaine. Et c'est énorme aux yeux de Dieu, si tu es fidèle, dans l'église, dans le soutien d'une mission, je ne sais pas. Si c'est 20 euros, c'est 20 euros. Si c'est 30, c'est 30. Si c'est 100 euros que tu peux donner par mois pour l'œuvre de Dieu, amen, alléluia. Si c'est 250, amen. Selon comment Dieu te prospère. Mais aux yeux de Dieu, vous savez, cette petite veuve-là qui a mis trois fois rien, aux yeux de Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le cœur avec lequel tu le fais. Mais Dieu va te demander des comptes à la fin de ta vie. Il va te dire, voilà tout ce que j'ai mis entre tes mains. Je t'ai béni avec tel travail. Je t'ai enrichi avec telle situation. Qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent? Est-ce que tu as été un serviteur fidèle, reconnaissant? Et vous savez, le dernier mot que Dieu il utilise quand il parle de notre service pour lui, c'est pas si on a été des chrétiens obéissants ou des chrétiens humbles ou des chrétiens actifs. Il dit bon et serviteur, comment? Fidèle, fidèle, fidèle. Vous voyez, c'est là. Dieu, son cœur est dans la fidélité. Parce que lui-même est un Dieu fidèle. Et à travers sa fidélité, il nous offre une grande stabilité. Et nous sommes responsables d'offrir aussi au peuple de Dieu, à l'œuvre de Dieu, cette fidélité, cette stabilité jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne, parce que son royaume ne va pas s'arrêter la semaine prochaine, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous sommes fidèles aussi dans nos finances. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, je suis tellement touché, Seigneur, parce que tu as mis sur mon cœur ce matin, et c'est une façon de penser qu'on n'a pas l'habitude de communiquer ici en France. Et pourtant, ton cœur est là, Seigneur, et je pense qu'il faut se réveiller. Seigneur, ton peuple s'attend aussi à ta provision. Et ça passe par les frères et sœurs en Christ. Ça passe par cette union que nous avons, cette interdépendance que tu veux encourager au sein de ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Touche notre cœur. Aide-nous à être fidèles. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, de t'offrir nos vies, mais aussi aujourd'hui, dans ce moment d'action de grâce, de le faire d'une façon concrète. Et tu as mis entre nos mains tellement de richesses, Seigneur, y compris l'argent. Et tu nous demandes, ta parole par beaucoup d'argent, tu nous demandes d'être fidèles aussi dans ce que tu mets entre nos mains. Et nous avons ces exemples incroyables du peuple d'Israël, nous avons ces exemples d'Abraham, d'autres, de Paul, de ces Macédoniens. Incroyables, Seigneur. Et pourtant, c'est tellement peu prêché dans les églises. Seigneur, je te prie que tu nous aides à nous réveiller la conscience, réveiller notre âme, et de comprendre, Seigneur, que l'éternité est devant nous. Et cette vie que tu nous as donnée, elle va bientôt s'achever. Mais l'éternité que nous pouvons vivre et l'investissement que nous pouvons faire dans ton éternité, ça se passe pendant que nous sommes encore sur terre. Aide-nous, Seigneur. Je te demande vraiment ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.